Chevalier des Mémoires. Après une première émission dans le froid consacrée aux glaciers alpins, nous nous attaquons aujourd'hui au lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors le sujet il est assez vaste, et comme nous avons eu l'occasion de nous rendre sur plusieurs lieux de mémoire et de rencontrer des spécialistes du thème, nous vous proposons cette fois-ci une émission en deux épisodes. Le premier portera sur la résistance et le second sur la Shoah. Chroniqueurs ont beaucoup travaillé pour vous apporter des éclairages scientifiques, politiques, mais aussi culturels. Je crois qu'ils sont prêts, alors c'est parti pour les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, épisode 1, la résistance. Et tout d'abord, Bianca, peux-tu nous dire qu'appelle-t-on des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, les lieux de mémoire de la résistance apparaissent principalement après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1944 et 1944, au moment de la libération de la France. Ils sont créés pour conserver le souvenir des actions des résistants et pour rendre hommage à celles et ceux qui ont risqué leur vie face à l'occupation allemande et au régime de Vichy. Parmi les lieux qui préservent la mémoire, il y a le Souvenir français, la plus ancienne association mémorielle en France, et les carrés militaires. Ces espaces ont été créés par la République française avec l'aide d'anciens résistants grâce à leurs témoignages ou grâce aux archives. Lors de notre sortie scolaire, nous avons visité le cimetière national militaire de la Doua, à Villeurbanne, qui compte 6359 tombes organisées en carrés militaires.
Et d'ailleurs, quels sont les effets de ce lieu, Bianca ?
Ces lieux permettent de transmettre l'histoire de la résistance aux nouvelles générations et de rendre hommage à tous les résistants et soldats français. Et pour finir, les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale peuvent prendre différentes formes. Il y a tout d'abord des sites historiques comme le plateau des Glières, au lieu de la résistance en Haute-Savoie, ou des musées comme le musée de la résistance et des déportations de l'Isère, qui racontent le quotidien et le courage des résistants. On peut aussi citer des monuments nationaux comme l'Arc de Triomphe à Paris, qui rend hommage à tous les soldats morts pour la France. De plus, lors de notre voyage scolaire à Paris, nous avons participé au ravivage de la flamme, un geste symbolique qui rappelle la mémoire du soldat inconnu et le courage de tous ceux qui se sont battus pour la patrie.
Merci Bianca pour ces explications. Et sans trop tarder, maintenant que la définition est posée, Anissa, tu vas nous présenter un lieu de mémoire où nous nous sommes rendus, la prison Montluc à Lyon.
Oui, donc je vais vous parler de la prison de Montluc. C'est une prison qui se situe à Lyon, dans le 3e arrondissement. C'est un lieu majeur de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Cette prison, elle a été construite en 1921 comme prison militaire. Composée de 122 cellules individuelles, elle a la capacité d'accueillir 127 personnes. Et la plupart des cellules mesuraient 4 mètres carrés. Il n'y avait pas d'eau courante, pas de toilettes, ni de chauffage à l'intérieur de celle-ci. Mais de plus grandes cellules de 16 mètres carrés existaient pour les hauts gradés. Des gravures sont présentes à l'intérieur de ces cellules. Elles sont appelées traces clandestines. Elles représentent des témoignages laissés par des détenus vivant dans des conditions très difficiles. Les détenus écrivaient leurs messages sur les murs ou sur les portes. Ils se servaient des objets qu'ils trouvaient comme des pierres, des clous, des crayons ou encore des morceaux de métal. Ils dessinaient, écrivaient leur nom, une date ou un message. C'était leur façon de résister.
Et d'ailleurs, en novembre 1942, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Donc, en novembre 1942, les Allemands sont à la recherche de prisons pour enfermer les opposants. Ils choisissent donc la prison de Montluc, qui sera à leur service dès le 17 février 1943. La prison passe sous le contrôle de la Gestapo et notamment de Klaus Barbie. Elle est donc inévitablement un lieu de transit et la porte d'entrée dans le terrible univers nazi. Ce n'est plus une prison, mais un lieu d'internement. Elle est surpeuplée. Plus de 1300 personnes y sont internées dans d'horribles conditions. Montluc constitue alors une première étape dans le processus de la déshumanisation voulue par les nazis. Entre 1943 et août 1944, ce sont près de 10 000 personnes qui y sont internées, dont le fameux Jean Moulin ainsi que Marc Bloch. La prison est finalement libérée de l'occupation allemande le 24 août 1944, puis elle retrouvera un fonctionnement plutôt normal jusqu'à sa fermeture en 2009. Aujourd'hui, cette prison est un lieu de mémoire important de la Seconde Guerre mondiale.
Merci Anissa. D'ailleurs, c'est justement sur ce lieu de mémoire, la prison de Montluc, que nous avons rencontré Lydie Broyer, qui est médiatrice au mémorial, et on a eu la chance de lui poser quelques questions. Voici l'enregistrement.
Alors, je m'appelle Lydie.
Voilà. Donc, on va vous poser quelques questions dans le cadre de la prison de Montluc. Et du coup, dans ce registre-là, le travail qu'il y a du coup derrière toutes ces archives, etc., on sait que pour retracer le chemin de tous ces prisonniers, c'est un travail d'archives énorme. Est-ce que vous savez, par exemple, du coup, s'il y a eu un travail entre la prison de Montluc et les archives du coup qui sont à côté, ou...
Alors, il y a une sorte de partenariat, entre guillemets. On travaille sur des thématiques communes. Donc, on sait que quand on nous contacte, ils peuvent nous envoyer des archives de manière plus simple. Sinon, on y va, on les photographie. Aujourd'hui, on peut avoir de la chance parce qu'on est en 2025, il y a beaucoup d'archives qui sont numérisées. Donc notamment toutes les archives allemandes des camps de concentration, n'importe qui a accès en ligne. Donc aujourd'hui, pour faire des recherches, c'est plus simple qu'avant. C'est un travail qui est énorme, oui, mais vu que les archives sont du coup numérisées, on peut les trouver assez facilement sur Internet. Mmh. On a aussi des archives qui parfois sont à Paris, donc des fois on a des collègues qui partent une semaine, qui vont photographier plein d'archives, et après nous on les étudie ici. Donc ça dépend, mais on va dire qu'aujourd'hui c'est quand même plus simple qu'à l'époque. Surtout qu'à Montluc, ça fait... du coup, un moment que c'est un mémorial, donc nos collègues ont fait aussi un travail en amont. Et du coup, nous ont mâché bien le travail pour beaucoup de choses aussi.
Et est-ce qu'il y a des nouvelles archives qui apparaissent de temps en temps?
Alors oui, moins sur la Seconde Guerre mondiale, mais notamment sur la période de la guerre d'Algérie, puisque les archives judiciaires, si je dis pas de bêtises, c'est 75 ans avant que les archives soient versées, avant que les cours, les juridictions versent les archives aux archives et qu'on soit autorisé à les diffuser au public, c'est 75 ans. Je crois que c'est un peu moins, j'ai plus la règle en tête, mais du coup il y a des archives qui ouvrent parce qu'on a les années du coup qui sautent, donc on sait qu'on a les nouvelles archives guerre d'Algérie qui s'ouvrent petit à petit. Seconde guerre mondiale, il y a presque tout qui a été découvert et travaillé plus ou moins. Après, c'est pas parce que toutes les archives sont ouvertes et qu'on peut les consulter qu'elles ont toutes été étudiées dans le détail, parce que c'est un travail qui est du coup très long, tout le monde n'a pas le temps de faire du coup tout ça.
Okay. Moi, ma dernière question, du coup, comment vous êtes rentré dans ça, comment vous avez découvert?
J'ai fait un mémoire. Il fallait que je fasse un mémoire en dernière année de droit. Moi, j'ambitionnais pas du tout d'aller en thèse. Et du coup, je voulais trouver un sujet qui m'intéressait. Donc, je l'ai fait sur le droit et les enfants d'Izieux. Donc, comment le droit a permis de construire un devoir de mémoire pour les enfants d'Izieux avec le procès de Klaus Barbie. Et du coup, ça m'a plu. Donc, j'ai continué en thèse sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est intéressant parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent la période historique qu'on retient le plus parce que malheureusement, une des plus dramatiques. Mais c'est aussi une période qui a encore des impacts aujourd'hui. On n'est pas vraiment passé au rang de vraiment histoire. Il y a encore cette chose de mémoire, une blessure qui n'est pas totalement recouverte. Donc il y a encore toujours des sujets à travailler et des répercussions qui se font encore aujourd'hui. On en parle toujours aujourd'hui, de ce qui s'est passé pendant la guerre alors que ça remonte à 80 ans. Oui. Donc, ça aussi.
Et c'est tout pour moi. Oui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Maintenant, nous poursuivons notre itinéraire qui va relier Lyon à Paris et plus particulièrement la prison de Montluc au Panthéon. Martin et Zoé vont en effet nous proposer le portrait de deux personnalités emblématiques de la résistance française, Jean Moulin et Marc Bloch.
Eh bien, bonjour Aymeric. Alors oui, effectivement, je parlais de Jean Moulin. Donc un personnage qui s'entremêle un peu avec ce que disait Anissa et la prison de Montluc. Donc je vais vous présenter Jean Moulin à travers trois parties différentes. Donc je vais tout d'abord faire la présentation de ce personnage, ensuite le rôle qu'il avait dans la résistance et son arrestation, pour enfin finir sur son décès et la mémoire qui tourne autour de ce personnage. Donc Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers, dans le sud de la France. Et en 1917, il entre dans une fac de droit et de sciences politiques à Montpellier. Cependant, ce n'était pas un élève brillant. Il s'est donc démarqué dans l'art, notamment dans le dessin où il excellait. Il a donc exercé d'abord le métier de marchand d'art, puis a été préfet de plusieurs départements, comme le préfet de l'Hérault, où se trouve Béziers, puis préfet de l'Aveyron, en 1838-1839, et enfin attaché à la préfecture de Chartres, en Eure-et-Loire, proche de l'Île-de-France, vers 1940. Il a été aussi franc-maçon et pu fréquenter Raymond Poincaré grâce à ses nombreuses expériences en préfecture. Jean Moulin est engagé de gauche. Il a soutenu activement et participé au maintien du Front populaire de Léon Blum. Il était très proche de Raymond Aubrac, notamment, lui aussi un ancien résistant. Jean Moulin a eu de nombreux pseudonymes durant sa période de résistance, comme Régis, Max, Rex... Pour finir sur sa présentation et passer au deuxième point, donc son rôle dans la résistance, je vais aborder un tournant de la vie de Jean Moulin. Cependant, cette histoire n'est que très peu connue. L'histoire de l'écharpe de Jean Moulin.
J'ai très hâte d'écouter cette histoire. Dis-moi en plus, Martin.
Tout commence donc début juin 1940, lorsque Joseph Jean Mercier, son nom d'usage durant cette période, lui qui est attaché à la préfecture de Chartres, en France occupée, reçoit dans son bureau deux agents de la Wehrmacht. Ils lui demandent de falsifier des dossiers de tirailleurs sénégalais et d'y ajouter les faits qui seraient violents, agressifs et qu'ils auraient violé différentes femmes. Mais bien sûr, Jean Moulin ou Monsieur Mercier refusent de collaborer et d'approuver ce mensonge, de signer ce document, appelé le protocole par les nazis, qui déshonorerait l'armée française. Il se fait donc arrêter, puis violenté, torturé et frappé pendant plusieurs jours. Plusieurs soirs, il est aussi enfermé des nuits entières dans un cabanon avec le cadavre d'une femme mutilée, pour tenter de le briser psychologiquement. Puis, dans la nuit du 17 au 18 juin 1940, Jean Moulin ne se voyait plus pouvoir supporter une seule nouvelle séance de torture. Il craignait finir par décéder. Alors il a décidé de se donner la mort. Il préférait mourir de sa main. Il ramasse donc un débris de verre d'une bouteille cassée et s'est tranché la gorge. Il est découvert au matin par ses gardiens, ensanglanté mais toujours vivant. Il est soigné de justesse. Depuis ce jour, Jean Moulin n'a cessé d'apparaître publiquement vêtu d'une écharpe. Je vais maintenant aborder son rôle dans la résistance. Tout d'abord, Jean Moulin était président du Conseil national de la résistance, le CNR. Puis il rejoint en 1941 la France libre pour se trouver aux côtés du général Charles de Gaulle à Londres. Il a ensuite été envoyé à Lyon, sur ordre du général Charles de Gaulle, pour réunir les principaux mouvements de la résistance française. Il créa donc le fameux CNR, qu'il dirigera. Donc Lyon devient rapidement son quartier général. Il s'y installe. C'est une ville stratégique située à cette période en zone libre, jusqu'en 1942. Elle est le carrefour de grands mouvements de la résistance intérieure, comme Combat, Libération Sud ou encore Franc-Tireur. Quelques temps plus tard, Jean Moulin est arrêté dans un cabinet médical, dans la banlieue de Lyon, toujours, avec 8 autres résistants. Il devait y avoir lieu une réunion stratégique entre Jean Moulin et 7 autres représentants de différents mouvements de résistance, afin d'élaborer des méthodes solides d'opposition à l'Allemagne nazie. Cependant, il est dit qu'ils auraient été dénoncés par un membre même de la réunion. C'est pourquoi ils ont tous été arrêtés le 21 juin 1943, sur ordre de Klaus Barbie. Sauf un membre, lui relâché, bizarrement, peu de temps après l'arrestation. Je vais donc aborder le dernier point maintenant, son décès et la mémoire. Il est donc mort le 8 juillet 1943 à Metz, sortant de Montluc, à bord d'un train en direction de Berlin, pour y être soigné. Épuisé et en état grave de par les tortures qu'il endurait, soigné, il aurait été torturé de nouveau par Klaus Barbie ensuite. J'ai envie de dire, entre guillemets, heureusement pour lui qu'il est décédé à ce moment-là. Donc cependant, il est mort de ses blessures sur le trajet à Metz, donc, sous le Troisième Reich. D'ailleurs, apparemment, de mort accidentelle. Jean Moulin est décédé à l'âge de 44 ans. Il a été panthéonisé en décembre 1964, 21 ans après son décès, à la demande du général Charles de Gaulle, encore ce personnage. On voit donc le passage de Montluc au Panthéon, comme pour Marbloc, d'ici peu. Mais le corps de Jean Moulin n'ayant jamais été identifié avec certitude, l'urne en son nom, qui est au Panthéon, ne contient que ses cendres présumées. Outre Paris, Jean Moulin a beaucoup de lieux mémoriels à son effigie, comme une plaque commémorative dans les Yvelines à Claye-sous-Bois, à Paris encore. Mais à l'échelle plus locale, il y a la stèle de Jean Moulin à Cran, où vous pouvez aller faire un tour.
Merci Martin, on est maintenant imparable sur l'histoire de Jean Moulin. Le 23 juin prochain, c'est Marc Bloch qui sera à son tour panthéonisé. Zoé, peux-tu nous en dire davantage sur celui qu'on appelle l'historien résistant ?
Oui, merci Aymeric. Alors, Marc Bloch est un célèbre historien et professeur d'histoire né le 6 juillet 1886 à Lyon, dans une famille juive alsacienne. Comme on peut s'en douter, il a subi de l'antisémitisme tout au long de sa vie, mais il n'a jamais rejeté le fait qu'il était juif, malgré le contexte de la guerre et de la montée du nazisme. En 1939, il s'est même engagé volontairement dans l'armée française. En 1940, il rédige le célèbre livre historique « L'étrange défaite », dans lequel il essaie de trouver des causes à la défaite française dans la Seconde Guerre mondiale.
Mais Marc Bloch a eu aussi un rôle dans la résistance, non ?
Tout à fait. En 1943, Marc Bloch s'engage dans la résistance lyonnaise, dont il devient d'ailleurs l'un des chefs, alors même que la répression des populations juives s'accentue. Et c'est donc pour cette place dans la résistance qu'il est arrêté le 8 mars 1944 par la Gestapo de Lyon et enfermé dans la prison de Montluc, dans le 3e arrondissement de la ville. D'ailleurs, dans sa cellule, la numéro 75, il livre des cours d'histoire afin de remonter le moral de la dizaine de personnes avec qui il partage la cellule. Et c'est donc dans cette prison que Marc Bloch a été interrogé et torturé par Klaus Barbie. Le procès verbal de son interrogatoire est resté secret jusqu'en 2000, mais on sait maintenant que l'historien n'est pas resté muet sous la torture, mais n'a tout de même pas dénoncé ses compagnons résistants. Il fut fusillé quelques mois plus tard, le 16 juin 1944, par la Gestapo, près de Saint-Didier-de-Formans.
Donc comme le disait tout à l'heure, Marc Bloch va rentrer cette année au Panthéon.
Oui, en effet, en 2024, lors du 80e anniversaire de la libération de Strasbourg, le président Emmanuel Macron déclare la panthéonisation de Marc Bloch. Le président français déclare l'avoir choisi pour son œuvre, son enseignement et son courage, si je reprends ces mots exacts. Donc, je le rappelle, on est dans un contexte en plus dans lequel la France cherche à valoriser ses héros de la Seconde Guerre mondiale. Initialement, cette entrée au Panthéon devait avoir lieu le 16 juin 2026, soit 82 ans après la mort de Marc Bloch, mais comme vous l'avez notifié tout à l'heure, la date a été décalée au 23 juin 2026.
Merci Zoé. Ainsi, nous voici arrivés au Panthéon et il nous paraît indispensable de présenter ce haut lieu de mémoire. N'est-ce pas Louise ?
Absolument. Je vais donc vous présenter le Panthéon qui se situe au cœur du quartier latin à Paris. C'est l'un des symboles majeurs de la mémoire républicaine. Ancienne église transformée en monument civique à la Révolution française, il accueille celles et ceux que la nation considère comme des figures exemplaires. Le Panthéon est surtout un lieu de mémoire tel que le théorise l'historien Pierre Nora, c'est-à-dire un élément matériel ou immatériel à partir duquel un groupe s'identifie à un passé commun et cherche à perpétuer le souvenir. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays est fragilisé et traumatisé. Il est impératif de mettre en place sa reconstruction matérielle et morale. Le Panthéon devient alors un lieu important pour honorer la mémoire de ceux qui ont résisté et de ceux qui ont souffert. Un exemple marquant de la résistance intérieure est Jean Moulin. Envoyé par le général de Gaulle en 1942 pour unifier les mouvements résistants, il parvient à créer le Conseil national de la résistance. Arrêté en 1943 à Lyon par la Gestapo, il meurt sous la torture sans avoir parlé. Son entrée en Panthéon en 1964 est décidée par le général de Gaulle l'année du 20e anniversaire de la libération. Le célèbre discours d'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, rend hommage au courage de Jean Moulin ainsi qu'à celui de tous les résistants. Cependant, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ne se limite pas à la résistance, mais également aux victimes de la déportation et de la Shoah. Cette mémoire est notamment incarnée par Simone Veil, déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans parce qu'elle était juive. Elle survivra à l'horreur des camps. Plus tard, devenue ministre et figure majeure de la vie politique française, elle permet le passage de la loi sur la légalisation de l'avortement et œuvre pour la réconciliation européenne. Son entrée au Panthéon en 2018, sous la présidence d'Emmanuel Macron, marque la reconnaissance officielle de la mémoire des victimes de la déportation et du combat pour la dignité humaine. En la faisant entrer dans ce monument, la République rend hommage non seulement à une femme d'État, mais aussi à toutes les victimes de la Shoah. Ainsi, à travers Jean Moulin et Simone Veil, le Panthéon reflète les transformations de la mémoire collective française, d'une mémoire centrée sur la résistance et l'héroïsme national, à une mémoire plus plurielle, intégrant les droits humains, l'égalité et la reconstruction européenne.
Merci Louise pour toutes ces informations. Mais on sait aussi que le Panthéon n'est pas qu'un lieu de recueillement, il est aussi un lieu de culture, comme le prouve l'étonnante exposition du travail de l'artiste Nicolas Dauban, qui a fait le voyage entre plusieurs lieux de mémoire, dont Montluc et le Panthéon. Je me tourne vers toi, Lilou, pour me raconter cette histoire.
Merci, Aymeric. Alors, l'œuvre de Montluc à Lyon, bâtiment cellulaire, réalisé par Nicolas Dauban entre 2024 et 2025, est présentée au Panthéon à Paris dans le cadre de l'exposition « Ombre et lumière, mémoire des lieux ». Elle est installée dans la nef du monument, dans un espace consacré à la mémoire nationale. Cette œuvre prend la forme d'un polyptyque, qui est une œuvre d'art composée de plusieurs panneaux. Elle est réalisée à partir de poudre d'acier aimantée, qui est un matériau régulièrement utilisé par l'artiste. L'œuvre représente le bâtiment cellulaire de la prison de Montluc sous la forme d'une coupe du couloir principal. Il est dessiné à l'échelle réelle sur trois niveaux. Chaque niveau correspond à une période différente de l'usage du bâtiment. Au rez-de-chaussée, toutes les portes des cellules sont fermées. Au premier étage, les portes sont ouvertes. Au deuxième étage, les portes ont disparu et seuls subsistent les murs marqués par le temps. L'artiste montre ainsi les transformations successives du lieu à travers son architecture sans recourir à une représentation humaine dans son œuvre. La présence de cette œuvre au Panthéon possède un sens essentiel. la représentation du bâtiment de Montluc est placée dans un monument dédié à la mémoire collective et à la reconnaissance nationale. Ce parallèle entre les deux lieux met en relation un lieu d'enfermement avec un lieu de commémoration. Donc avec cette installation, Nicolas Dauban montre que la mémoire peut être gardée dans les lieux eux-mêmes.
Merci Lilou. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode avec une rubrique qui vous propose d'aller plus loin, avec des conseils de lecture, de films, de séries, histoire de ne pas vous ennuyer d'ici le prochain épisode. Elodie, quels conseils nous donnes-tu ?
Donc en effet, la mémoire de la Résistance, c'est une mémoire entretenue à travers de nombreux écrits et péplums. Pour cela, nous avons donc préparé une liste d'œuvres à lire et regarder pour en apprendre plus sur la Résistance. Donc tout d'abord, dans les écrits, nous retrouvons Les Enfants de la Résistance, une série de bandes dessinées belges en 9 tomes. Le premier a été publié en 2015. Elle narre le destin de 3 adolescents résolus à opposer quelques résistances à l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. L'intrigue prend son essor à l'été 1940 dans le premier volume et, dans le dernier opus paru, se termine la veille du débarquement. Cette BD a été adaptée cette année au cinéma par le réalisateur Christophe Baratier. On retrouve également d'autres films, comme par exemple Lucie Aubrac, un péplum de 1997. Dans cette histoire, on suit l'histoire de Lucie Aubrac, une professeure et résistante à Lyon dans les années 1943. Elle apprend l'arrestation de son mari Raymond. Grâce à un stratagème audacieux, elle obtient sa libération le 14 mai, jour d'anniversaire de leur mariage. On retrouve également La Résistance, sortie en 2020. L'histoire se déroule à Strasbourg en 1938. Marcel Mangel, futur Marceau, aide avec des scouts à sauver des orphelins juifs. Après l'invasion de la France, il rejoint la Résistance. Nous pouvons donc retrouver une présence importante des écrits et des films à l'objectif de rendre mémoire à la Résistance et ainsi partager l'histoire aux nouvelles générations.
Merci Elodie. Maintenant, je sais ce que je vais faire ce soir, un petit ciné chez moi. En espérant que ça vous a plu, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous nous retrouvons très bientôt pour l'épisode 2 de l'Atelier des Mémoires, un podcast réalisé par les élèves de Terminal AGGSP du lycée Charles Baudelaire à Annecy.